Deezer. Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Rétro 2050 avec Thomas VDB, Sérieusement avec Pablo Mira ou encore Hit Story d'Éric et Quentin, la presque vraie histoire des tubes.
Football. Recall. Football Recall.
Et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins sur les sites de SoFoot et de Deezer, on débriefe les matchs de la veille et on te spoil les matchs du jour.
Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie. Sais-tu par exemple que siffler dans une maison russe porte malheur ?
Oui.
Ça empêcherait de gagner de l'argent, figure-toi.
N'importe quoi. Je suis Thomas, je suis content d'être de retour. Parce qu'en fait, dehors, c'est nul.
On est mieux.
Aucun intérêt.
On est mieux dans les sous-sols de SoFoot.
Évidemment.
Et je suis Mathieu, et aujourd'hui, c'est parti pour la dernière ligne droite de ce premier tour. La Russie ou l'Uruguay, l'Espagne ou le Portugal, qui va finir premier de son groupe? Et puis surtout, une grande question, c'est qui le plus fort, l'Angleterre ou la Belgique, l'hippopotame ou l'éléphant?
Oui, bonne question. Comme tous les jours, on aura le point bleu avec Doskov. On aura un autre envoyé spécial aussi. Thomas Pitrel.
Oui, Thomas Pitrel.
À Moscou. Et les pronos d'une personnalité aujourd'hui, c'est...
Nelson Monfort.
Oui, Mino.
Football Recall. L'émission qui prend les matchs du mondial les uns avant les autres.
Et comme chaque jour, on est avec un journaliste de l'équipe SoFoot et Society. Aujourd'hui, c'est Mathieu Rollinger.
Salut.
Salut
Mathieu.
Ça va et vous?
Si vous connaissez le podcast avant ce mondial, Mathieu est un pilier.
Ah oui, Mathieu nous a fait des super sujets. Le mec qui s'était séparé de sa nana après un Barcelone PSG.
Ouais. Ouais, là ça doit pas être simple pour lui aujourd'hui, hein, avec le foot qu'il y a.
Ouais, ça va être compliqué. Nazir, le réfugié...
Nazar.
Ouais, bah,
soudanais. C'est la même chose. Ouais. Le réfugié soudanais qui cherche un club en France. Ouais.
Tu as des nouvelles?
Non.
Non, car je n'ai pas de cœur, je ne réponds pas à ces appels, je l'ai bloqué. Mathieu, ASP, âge, sexe, pays, supporté.
Alors, j'ai 28 ans, je suis masculin, un homme, et le pays supporté, donc ouais. Bah, la France, mais sinon, le petit coup de cœur de ce premier tour, en tout cas, c'est la Croatie. Mais bon, après, c'est comme la Croatie, dans chaque compétition, ils nous en mettent plein la vue sur le premier tour, et derrière, ça se dégonfle contre, je sais pas...
Des allumeuses, ces Croates.
Oui, bah oui. Ouais. En fait, tu cherches du soutien.
Pas du tout. Non.
Tu n'en auras pas. Bon, bah, comme d'hab, on va débriefer les matchs de la veille. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on dise un mot du match du soir, coup de pied bagarre?
Ah, bah, c'est vraiment, ouais. C'est la définition.
J'ai déjà oublié Colombie-Pologne.
Colombie-Colombie, on l'a vu au bureau, Mathieu, t'en as pensé quoi?
Ouais, au début, j'ai cru que c'était un match de ping-pong, ça allait à gauche à droite, ça arrêtait pas de passer d'un côté à l'autre. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé la prestation des Colombiens, parce que c'est vraiment le genre d'équipe qui commence doucement la compétition et qui peut, à terme, monter un peu en gamme et aller vraiment embêter les gens. Surtout que derrière, ils peuvent choper l'Angleterre, qui a l'habitude de passer à la trappe en huitième. Mmh. Et donc, on peut très bien les voir embêter au quart, voire plus.
Je devais résumer ce match, ce serait un match de foot à montrer à toutes les écoles de foot, si vous voulez que les gosses arrêtent le foot.
Oui, c'est vrai. Enfin, moi, ça m'a un peu dégoûté du foot. Enfin, j'ai une journée très difficile.
Ouais.
J'ai subi beaucoup de matchs.
T'as vu tous les matchs?
Ouais. J'ai vu les trois matchs et c'était compliqué. Moi, le groupe H, je l'appelle le groupe Domino Pizza maintenant, comme la Ligue 2. Pour moi, c'est pareil.
Ça joue pareil.
Oh là là, catastrophique, une catastrophe. Et pourtant, on a vu, je sais plus, une douzaine de buts.
Oui.
Sur la journée d'hier, une douzaine de buts. Et pourtant, mais oh, quel enfer.
Dur.
Donnez-nous du vrai foot. Quoi, là.
Allez, on passe à Angleterre-Panama.
Oui, voilà.
Ah, là, t'as préféré, là, t'as aimé ça.
Oui, parce que il y a des buts, donc il y a un peu d'action, mais bon. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de parallélisme entre la Belgique avant-hier et l'Angleterre hier, où on a deux équipes dans le même groupe qui claquent d'un côté 5 buts, de l'autre 6, qui ont un football assez spectaculaire. Et du coup, c'est cette question, la question foireuse. Qui c'est le plus fort entre l'Angleterre et la Belgique? Parce que forcément, du coup, on voit tous comparer les deux équipes.
Bah, oui.
Toi, Mathieu, il y a une équipe qui te branche plus que l'autre entre l'Angleterre et la Belgique?
Bah là, comme ça, j'ai l'impression que quand même la Belgique a plus de certitude. On sent qu'ils en ont encore sous le pied, etc. L'Angleterre, ils n'ont pas encore vraiment... je pense qu'ils ont vraiment besoin de se confronter à la Belgique, justement, pour savoir ce que ça vaut. Mais ouais, donc je mettrais plus une pièce aujourd'hui sur la Belgique. Après, vu le match d'aujourd'hui, l'Angleterre, ce que j'aime bien, c'est que c'est une équipe qui a tellement eu la loose sur les dernières éditions. C'est la première fois depuis 2006 qu'ils enchaînent deux victoires en Coupe du Monde. Que là, du coup, ils y vont un peu sans pression, etc. Et je pense que s'ils continuent à faire leur jeu comme ça, sans se mettre la pression, ils peuvent aussi aller loin.
J'ai vu que Southgate a déclaré qu'il a préféré la victoire contre la Tunisie.
Mais ça m'étonne pas, parce qu'en fait, assez vite...
Excuse-nous, Philippe Etchebest, jamais content, lui.
Non, mais au final, je pense que la victoire contre la Tunisie leur donne plus de certitude que la victoire contre le Panama. C'est-à-dire que contre la Tunisie, ils étaient exactement dans les cas de figure qu'ils avaient rencontrés à chaque compétition internationale. Sur les, tu le disais, depuis au moins 2006, même peut-être avant. Et en gros, là, ils étaient complètement embourbés contre la Tunisie, qui défendait plutôt bien, et ils ont réussi à s'en sortir. Donc, à mon avis, si je me mets à la place de Gareth Southgate, déjà, j'ai une passion pour les Blazers.
Oui, bien sûr. Et les gilets.
Et les petits gilets, les petites chemises. Mais en plus ça, je me dis, ah, au moins, on s'en est sorti. Moi, ce qui m'intéresse dans ce duel Angleterre et Belgique, c'est que il y a deux entraîneurs où tu te dis, les mecs, ils ont vraiment bossé leur schéma de jeu. C'est-à-dire que les deux évoluent avec des défenses à trois. On en parlait hier avec Simon pendant petit jour Spa et cocooning. C'est qu'ils ont des vraies défenses à trois avec des latéraux qui jouent presque comme des ailiers. Donc là, les types, en fait, ont construit deux équipes très offensives et tu sens qu'en un claquement de doigts, ils peuvent repasser à quatre derrière, ils peuvent changer leur équipe en fonction de l'adversaire. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. La grosse différence pour moi, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Mathieu, c'est que d'un côté, on a la Belgique où tu sens que c'est hyper spontané. C'est cool, c'est un peu pop culture, quoi. Les mecs, ils sont là, ils sont plutôt beaux gosses, plutôt jeunes, ils jouent au feeling. Et de l'autre côté, t'as les Anglais qui sont quasiment transformés en robots. Et sur coup de pied arrêté, c'est hallucinant.
C'est fou.
Waouh.
Harry Kane, surtout, c'est une machine, quoi. Il est sur la lancée de sa saison.
Par contre, j'ai une stat qui tue, c'est que la dernière équipe à avoir mis 5 buts dans la première mi-temps, c'était l'Allemagne contre le Brésil. Et bon, ils ont fini champion du monde, donc que ça peut aider pour.
Moi, je veux, j'achète.
À noter que c'est le premier Anglais à réaliser un triplé en Coupe du Monde depuis Gary Lineker en 86.
C'est beaucoup de stats.
Oui, j'en ai une autre si tu veux. Harry Kane, d'après ce que j'ai vu, Harry Kane, 4 tirs, 5 buts. Un magicien.
Ah ouais.
Oui, parce que son but, il touche un peu des fesses de la semelle est pour lui, donc voilà.
Et si tu changes 4 lettres à Harry, ça fait chatte.
L'actu des Bleus.
Et c'est le moment de retrouver l'équipe de France.
C'est le moment d'être vulgaire, alors.
Non, chatte dans le sens chance.
Ah, bien sûr, évidemment. Oui, bah, évidemment. Ça à ma mère.
Alexandre Doskov, donc, est toujours aux côtés de l'équipe de France. Aujourd'hui, entraînement à huis clos. Et les premiers bruits sur le 11 de départ mardi face au Danemark. On attend beaucoup de changements. Pas de Pogba, pas de Mbappé, pas d'Umtiti, mais du Kipembe, du Nzonzi et du Lemar. Et Lloris et Mandanda aussi.
Il y aurait du Mandanda, alors que Bernard Lama aurait refusé, lui, parce qu'il a des couilles.
Comment les joueurs se comportent quand ils savent qu'il y a un turnover pareil? Est-ce que les remplaçants lancent des offensives médiatiques ou est-ce qu'ils font passer des messages? Comment toi t'as observé ça?
Oui, alors c'est vrai qu'on annonce un grand remue-ménage pour le match contre le Danemark et effectivement, il y en a certains qui commencent à aiguiser leur couteau, donc surtout les remplaçants qui espèrent avoir un peu de temps de jeu. Et donc ça passe par différentes formes. Celui chez qui ça a été le plus évident, qu'il avait envie de jouer, c'était Florian Thauvin, qui non seulement enchaînait des entraînements où il était à fond de chez fond, je pense par exemple au match amical contre les U19 du Spartak Moscou où il a mis un triplé, où il célébrait ses buts contre des enfants comme si c'était des buts dont dépendait l'avenir de l'humanité, et qui ensuite a fait une conférence de presse où il s'est montré à son avantage, assez amusant, quelques tournures de phrases un peu habiles. Il s'est montré, quoi. Donc il y a la stratégie Thauvin. Sinon, il y en a qui sont plus discrets, par exemple Thomas Lemar, qui est un des joueurs qui n'a pas du tout été utilisé pour l'instant et qui pose le plus de questions, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir à l'œuvre. Lui, pour le coup, il a été très discret. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas exprimé. Il est un peu resté dans son coin. Alors, je ne sais pas s'il est dans un délire, c'est le terrain qui parlera et Deschamps, il me choisira parce que je suis bon et pas parce que je fais du boucan. Voilà, je sais pas trop, mais voilà, il y a plusieurs façons d'appréhender ce match. Ouais.
Tu seras au stade Louzniki?
Exactement, je serai au stade, ouais, à Moscou.
Bon, et ben on se retrouve après le match.
Et ben on se retrouve après le match avec 3 points en plus dans la besace.
Optimiste
dans la besace.
Mais je crois que la besace, c'est la taille de son appartement apparemment à Moscou, c'est ça?
C'est pas très grand. Ouais. Mais comme toujours, on va retrouver de toute façon Doskov demain matin et ce sera jour de match face au Danemark. Et nous voilà dans le futur. Ce sont 4 matchs aujourd'hui le futur. La fin du groupe A à 16h avec Uruguay-Russie et Égypte-Arabie Saoudite. Le retour de tes chouchous saoudiens,
oui,
Thomas.
Oui, génie.
Et la fin du groupe B à 20h avec Espagne-Maroc et Iran-Portugal. Alors c'est des matchs en simultané.
Tout à fait.
Ceux qui ne savent pas, à partir de la troisième journée du premier tour, tous les groupes jouent en même temps. Donc des matchs en simultané. Donc...
C'est la fête de la musique.
Bah, excuse-moi.
C'est pas grave.
Excuse-moi,
ce séjour
à la boule hier m'a
chamboulé. Ça arrive à tout le monde. Donc les matchs sont simultanés. Forcément, il va falloir choisir les matchs. Et Mathieu va nous dire lesquels.
Les recos.
Mathieu, quel match on doit absolument regarder aujourd'hui?
Alors moi, j'ai choisi le match, le derby des coupes dégradées, des raies bien tirées et des barbes soignées,
oui.
C'est-à-dire le Iran-Portugal.
Oui, Iran-Portugal, oui.
Les beaux gosses, ouais, hein.
Les beaux gosses, ouais.
Ils sont impeccables.
Oui, bien sûr.
Alors pourquoi ce match, plus sérieusement, c'est par rapport au fait que ça, c'est aussi le Kérosico.
Mm-hmm.
Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, le sélectionneur iranien.
Qui est aussi
portugais.
Caray.
Et donc c'est quand même un type qui a lancé un peu la culture de la gagne au Portugal, parce que c'est lui qui a gagné les premiers titres internationaux du Portugal mm-hmm. en 89 et en 91 avec mm-hmm. les championnats du monde des moins de 20 ans. Dedans, il y avait Figo, Rui Costa, etc.
Belle génération.
Après, il a fait un parcours très bizarre, parce que lui, il vient de l'université.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un peu le premier à avoir lancé cette mode des professeurs entraîneurs portugais comme Mourinho ou Jardim qui sont fait la main à l'université. Et petit à petit après là, il a été aux États-Unis, il a été au Japon, etc. pour se confronter à différentes cultures du foot. Et c'est seulement après qu'il a été rappelé au Portugal et au Real Madrid.
Voilà.
Il est passé au Real Madrid et aussi en tant qu'adjoint avec Ferguson, là où il a rencontré Cristiano Ronaldo.
Donc un bon gros CV quoi.
Voilà, un bon gros CV, un peu bizarre quand même. Ouais. Mais et donc pour revenir aussi à Cristiano Ronaldo, là ils vont se retrouver pour la première fois depuis 2010, parce que Carlos Queiroz était le sélectionneur portugais en 2010.
Oui.
Et Ronaldo, à la fin du match contre l'Espagne, qui ont été éliminés en 8e, mm-hmm. il avait dit pourquoi ça vous êtes pas qualifié ? Il m'a demandé au coach quoi. Donc en gros, il était vraiment pas d'accord avec la stratégie mise en place. Il y a eu un gros clash entre les deux et ils sont pas reparlés depuis. Et là, notre ami Carlos, il en a parlé de s'est retrouvé avec le Portugal. Il a dit que c'était difficile d'imaginer ces minutes juste avant le match, mais qu'il vivrait ce moment avec fierté, enthousiasme et respect. Et puis s'il peut envoyer son ancien pays à la maison, ça sera avec plaisir.
Ouais, parce que là il réagit, tu sens que le mec il est à la cool quoi, mais genre j'imagine qu'il a bien envie de les balancer du mondial quoi.
Et surtout que ça fait depuis 2011 qu'il est en Iran, donc c'est quand même pas facile. Il a déjà fait une coupe du monde avec eux.
C'est pas facile en Iran depuis 7 ans en Iran.
Le mec s'accroche et on sent que voilà, il y a du travail. Moi j'ai bien aimé l'Iran contre l'Espagne et on sent qu'il y a vraiment du travail dans cette équipe, et que contre le Portugal ils vont forcément avoir
ils vont tenter un truc.
Les Portugais vont être emmerdés parce qu'ils vont devoir attaquer, ce qu'ils n'ont pas fait quasiment depuis le début de la compétition. Donc voilà, ça peut être un match très intéressant.
Parce qu'on rappelle l'enjeu, si l'Iran bat le Portugal, le Portugal est sorti, l'Iran est en 8e. Globalement, le Portugal est obligé de gagner. Et effectivement, moi c'est le match qui me donne le plus envie demain. Et l'Iran-Espagne, c'était le match pile ou face. C'est-à-dire que l'Iran, en première mi-temps, n'avait rien fait, avait été vachement défendu. Et en seconde mi-temps, on avait découvert qu'ils étaient capables de contre-attaquer et d'aller marquer des buts. Donc moi, ça me chauffe. Donc,
Iran-Portugal à 20h.
Pendant ce temps-là,
мотивация и поддержка всей страны. Почему сборная Англии бежит меньше? Ну, надо спросить тренера сборной Англии, да, и все. Других ответов у нас нет. У нас сборная России всегда славилась хорошей физической подготовкой.
Thomas, là, qu'est-ce qui se passe? Ta chronique a été piratée.
Pas du tout. C'est la conférence de presse à Russie où on a entendu un joueur de foot et le médecin de l'équipe russe.
Le médecin vient faire les conférences de presse,
ça
cache un truc, il y a un problème.
Oh, c'est louche, généralement, oui.
Une épidémie de gastro dans l'équipe.
C'est le Michel Simès local. En fait, le Télégraphe a révélé jeudi soir que la FIFA a refusé de publier le nombre de contrôles antidopage concernant l'équipe russe.
Ils les avaient perdus, non?
Sûrement. Et Illico, on a appelé du coup notre envoyé spécial à Moscou, l'un de nos envoyés spéciaux à Moscou, Thomas Pitrel, pour qu'il nous raconte un peu ce qu'il a vu, et lui a assisté à cette fameuse conférence de presse.
C'est pas un hasard, c'est qu'il commençait à y avoir quelques soupçons de dopage autour de l'équipe de Russie, des soupçons qui viennent pas totalement de nulle part, parce qu'il y a eu quand même pas mal de scandales de dopage autour du sport russe, et donc là ils ont envoyé leur docteur un peu pour essayer d'éteindre les polémiques, et en gros la stratégie russe quand il s'agit d'éteindre les polémiques, c'est d'attaquer quoi. Là, en l'occurrence, le médecin a dit que l'équipe russe avait été contrôlée plus que n'importe quelle autre équipe. Comme c'est un journal anglais qui a sorti l'affaire, il a pas arrêté de répéter que l'équipe d'Angleterre avait sans doute été contrôlée deux fois moins que la Russie. Voilà, donc un discours hyper offensif. Lui, le médecin, dit que en gros, ça a toujours été comme ça, que la Russie a toujours couru beaucoup, que déjà à la Coupe du Monde 2014, c'était l'équipe qui courait le plus, à la Coupe des Confédérations aussi. Donc lui, sa défense, c'est de dire que voilà, en gros, c'est la préparation physique Les Russes sont excellentes, ils sont très motivés, ils ont toute la Russie derrière eux, donc c'est pour ça qu'ils courent autant.
Bon, évidemment, c'est pas un hasard hein, si on commence à avoir des soupçons de dopage autour de la Russie. En fait, il y a tout un contexte qu'il faut rappeler, c'est qu'en décembre 2014, la chaîne allemande ARD avait accusé la Russie d'avoir mis en place un système de dopage d'État, et que depuis, les athlètes russes ont été bannis de plusieurs compétitions, les mondiaux d'athlètes, les JO de Rio pour une partie d'entre eux, et les JO d'hiver aussi en février dernier. Mmh. Donc forcément, on posait pas la question sur l'équipe de foot russe, on la trouvait tellement nulle. Maintenant qu'elle gagne, on se dit, ah bah, c'est bizarre. En gros, le dopage d'État concernait tous les sports, mais on n'a pas encore parlé du foot. Voilà.
Et donc, le docteur était au taquet, Bezouglov. Il a aussi déclaré que les joueurs russes ont été testés plus de 300 fois l'an dernier entre la FIFA, l'UEFA et l'agence antidopage russe, et que tout s'était clean. Et il a aussi précisé, et là je cite, « Je suis prêt à parier une bouteille de lait que les Anglais n'ont pas donné autant d'échantillons. »
Une bouteille de lait.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille de lait?
C'est quoi cette bouteille de lait?
On ne sait pas. Donc, on a une stratégie assez offensive, comme l'a dit Thomas Pitrel, et on pourrait dire que les Russes sont un peu énervés par ces rumeurs, et apparemment pas, même au contraire. Apparemment, les journalistes locaux sont à fond derrière leur équipe, comme va l'expliquer, encore une fois, Thomas Pitrel.
Avant la compétition, avant le début de la compétition, tout le monde disait que l'équipe de Russie était nulle et qu'elle allait perdre tous ses matchs. Et là, c'est vrai que les journalistes auxquels j'ai pu parler me disaient que c'était un énorme changement. C'est-à-dire que la veille du jour où je suis allé au centre d'entraînement de la Russie, il y a un journaliste qui me disait que quand le sélectionneur est entré sur la pelouse, tout le monde l'a applaudi, quoi. Tous les journalistes l'ont applaudi. Donc, c'est quand même diamétralement opposé avec ce qu'il y avait avant. Et également après le deuxième match de la Russie, je crois qu'il y a une journaliste qui est en pleine conférence de presse d'après match a sauté dans les bras du sélectionneur en lui disant vous êtes un roi. C'est l'excès inverse quoi aujourd'hui.
Donc les journalistes soutiennent à fond leur équipe, sont plutôt objectifs. Et pour en venir au doc, ça fait longtemps qu'ils préparent un peu le terrain. En mars dernier, le médecin de la sélection russe, Bezouglov, hein, a affirmé que le championnat de Russie était plus propre que n'importe quelle compétition dans tous les sports du monde. Et il a dit, il n'y a rien de comparable nulle part dans le monde, mais le football russe n'a pas ce problème.
D'accord, donc on le croit sur parole.
Ouais, et en juin aussi, il y a quelques jours, le 13 juin, il se plaignait déjà, il commençait déjà à se plaindre, en disant « Toutes les sélections sont sous le contrôle de l'UEFA et de la FIFA, et avant les phases de poule, les inspecteurs du programme antidopage sont venus nous voir plus de 4 fois, le tout à 7h du matin et même à 6h30 ».
Bah oui, ça nique les...
Ils préviennent pas. Maths, ça, hein. Alors, le Parisien aussi rappelle qu'en 2014, la sélection russe avait fini la compétition avec une moyenne de plus de 115 km parcourus par match. Une dépense d'énergie qui n'avait pas permis de remporter le moindre match. Hein. C'était face à la Corée du Sud, la Belgique et l'Algérie.
D'accord, donc ouais, parce qu'on a beaucoup vu circuler ce tableau du nombre de kilomètres parcourus par équipe, avec en gros la Russie, lors du premier match, est largement devant avec 118 km. La deuxième équipe, c'est la Russie lors du deuxième match avec 115. Et ensuite, c'est l'Égypte avec 112. Donc, il y a vraiment un gap entre l'équipe russe et les autres. Mais toi, tu nous dis qu'en 2014, c'était déjà le cas. En fait, ils couraient autant en 2014.
C'est ça. Et surtout, ce classement, même au niveau joueur, c'est Golovin qui a accompli le plus de distance.
Ah, c'est mon chouchou.
Par match,
c'est mon petit chouchou de la Russie, ça, ouais. Golovin.
Plus de 12 km 7 et un total de 25 km sur les deux premiers matchs. Alors, ça apparaît un peu abstrait comme ça. Du coup, on a comparé d'autres chiffres. Lors de la rencontre Belgique-Panama, c'est Thomas Meunier qui a parcouru le plus de kilomètres avec 11,6 km et à Axel Witsel 10,4. Donc c'est à peu près comparable.
Bon, après on parle quand même de mecs qui peuvent se baigner dans des eaux à 0 degré et boire des bouteilles de vodka. Donc
ça doit donc courir physiquement, un peu plus que les autres, ouais, c'est ça.
Ah, je crois que l'avocat de la fédé russe est avec nous. Eh bien, asseyez-vous, merci.
L'action du jour.
C'est le jeu, là, je crois.
L'action du jour, c'est ce soir à 20h, puisque c'est la fin des matchs du groupe B, avec, tu le disais, Mathieu, Portugal-Iran, mais il y a aussi Espagne-Maroc.
Alors, excuse-moi, avant que tu commences, on peut venir sur le jeu d'hier.
Si tu veux.
Parce que j'étais absent, vous êtes bien foutu de ma gueule, apparemment, puisque j'étais contre Simon, oui. Et je n'étais pas là. Donc vous avez mis un peu des montages rigolos, en fait. Hein,
c'est ça, un petit peu amusé.
On peut les remettre ce soir, parce que j'ai l'impression que c'était quand même plus facile pour Simon.
Ouais, c'est vrai. Et encore, Simon a pas marqué 30 points que ça.
Oui, Simon était très fair-play, je le remercie. Et oui, je te confirme, j'aurais eu toutes les réponses. Hein. Évidemment, l'Espace Girl, forever.
Du coup, tu veux peut-être le décompte des points? Où on
oui,
en est maintenant.
Vas-y.
On en est à... Tu mènes 23 à 17 contre la rédac de SoFoot.
Ok.
Fais gaffe, parce que je pense que Mathieu Rollinger est très très chaud. Alors, on y va. Espagne-Maroc.
Ouh, il a les mains moites. Ouais. Il a les mains moites.
Espagne-Maroc, une belle affiche qu'on pourrait résumer ainsi, de la vitesse des courses-poursuites et des bad boys, soit à peu près le pitch d'un docu sur NT1 consacré au GoFast. Et c'est bien normal, car c'est le premier point commun entre le Maroc et l'Espagne, le GoFast. Vous voyez tous en quoi ça consiste, le GoFast?
Oui, bien sûr.
Il y a Samina Seri dedans, non?
Non, il y a Roche Dizem. Oui, Go Fast, le film avec Roche Dizem. Bref.
C'est limite, Mathieu, non?
Le Go Fast pour ta maman Thomas, le Go Fast de la drogue convoyée par des grosses berlines qui défoncent les barrières de péage et les flics s'ils se mettent devant.
Oui, prochain film de Luc Besson, j'imagine.
Parce que je disais, ça mine la série.
Voilà, allez, c'est bouclé, bouclé.
Alors, c'est ce qui m'a inspiré mon jeu du jour. Je vais vous passer des extraits de reportages sur
des
le
extraits de drogue, à vous de dire, qu'est-ce que c'est?
Des extraits de reportages sur le Go Fast ou plus généralement le trafic de cannabis.
Okay.
Et vous me dites si on a pu entendre cet extrait sur Arte ou sur la TNT. C'est Arte ou TNT?
C'est le plus en n'importe quoi. Tu,
ouais, là,
tu veux prendre un jour off, tu me le dis. Hein,
c'est si un petit
veux.
Peu tiré par les cheveux aujourd'hui.
Donc c'est à la rapidité là. C'est,
ouais,
c'est
Arte
la
rapidité. Ou TNT.
On y va?
Vas-y.
Allez, premier son.
Une arrestation rondement menée.
TNT, TNT.
Mais à la frontière, la douane n'a pas toujours affaire à de tels amateurs.
C'est la voix, ça.
Ah, de tels amateurs.
De tels amateurs qui nous a mis sur la voix.
Oui, tout, un peu tout l'ambiance.
C'était dans le docu Stup, Go Fast et Filature sur NT1. Où l'on suivait la brigade de Montpellier, qui avait fort à faire contre les trafiquants prêts à tout.
Oui.
Moi, j'avais vu celle avec Perpignan, pas Montpellier, mais...
Oh, ouais, ça n'a rien à voir.
Et figure-toi
alors,
que
vraiment,
j'en ai trouvé une autre, mais qui vous avez vraiment redite avec celle-ci, qui était à Limoges.
Ah.
Comme quoi.
Tiens, tiens.
Allez, deuxième son.
La population de la région est bien consciente que l'Europe se rue sur ce produit et en veut toujours plus. Le phénomène n'a pas que des résultats positifs.
Oh là, la musique derrière. T'entends la musique derrière?
C'est pour ça, en fait, je me suis dit, ils vont peut-être être piégés par la musique.
Les auditeurs de Nova, ils sont en train de kiffer. Hein. Ouh là, je reconnais, bien sûr, c'est le bassiste. Bien sûr, c'est le bassiste.
C'était un documentaire Arte Reportage consacré à la vallée du Rif.
Oui.
Allez, on est au troisième.
Des téléphones portables en pagaille.
TNT.
Ouais, exactement. Vous êtes très fort sur la TNT.
Oui.
Des voitures de gros cylindrées. Plus de doute, un Go Fast est bien parti chercher une grosse quantité de stupéfiants en Espagne ou au Maroc.
Et là, tout le monde se tait pendant l'extrait parce que tout le monde est fasciné par ça.
Et là, tu regardes. Et là, vraiment, tu regardes, quoi.
Allez, un dernier, attention, piège.
Le soleil se couche lentement sur l'horizon. La nuit risque d'être longue.
Je veux dire TNT.
Arte.
Et c'est Arte.
Oui, mais non !
L'hélicoptère de la police approche du chef-lieu de la préfecture de Berat.
Ah, mais Arte, il donne dans le putaclic, comme
ça ? Eh ben là, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver.
Oui.
Et j'ai trouvé cet extrait qui est effectivement très ambigu parce qu'il y a la petite musique angoissante derrière.
Oui, bien sûr.
C'était un documentaire sur le cannabis made in Europe.
Oui, d'accord.
Voilà.
Oui. Et vous retrouvez la musique sur la compilation Novatunes, je crois, qui sort bientôt.
Football Recall.
Et on termine bien sûr cette émission, Thomas, comme tous les jours, par les pronos. Et on a qui aujourd'hui? Je sais que ça tient à cœur.
On a, oui, j'ai beaucoup milité pour qu'on l'ait. C'est Nelson Montfort qui a bien voulu nous répondre et nous donner ses pronos.
Je vois bien.
Je vois bien.
Je vois bien.
Le match du jour.
Le match du jour.
Je vois un score de 1-0. Je pense que les Marocains auront vraiment à cœur de se rattraper après cette vraie mésaventure qui leur est arrivée contre l'Iran. Je n'ai pas trouvé l'Espagne particulièrement souveraine, notamment en arrière et notamment leur gardien contre le Portugal. Donc un match nul, 1-0.
La révélation.
La révélation.
Je vois la Belgique être la révélation de ce mondial, voire même une des favorites. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe, notamment après leur dernier match de préparation contre le Costa Rica, a gagné 4-1 de mémoire. Je les vois vraiment aller loin. Je vois pas tellement de faiblesse dans cette équipe. Et puis peut-être que, comme j'ai beaucoup d'attaches avec les Pays-Bas de famille et autres, et que les Pays-Bas n'y sont hélas pas, eh bien mon Dieu, je vais peut-être m'intéresser aux pays voisins, que j'aime de toute façon.
Le joueur à suivre.
Je conseille vivement de suivre le joueur belge Lukaku, qui a été excellent dans le championnat d'Angleterre cette année. Et je pense qu'il a vraiment les moyens de briller à la tête de cette équipe de Belgique.
La raison d'empêcher les Allemands
de gagner à la fin.
Je vois beaucoup de choses qui risquent d'empêcher les Allemands de gagner. Je vois une certaine lenteur en défense, pour ne pas dire une défense un petit peu empruntée. Je ne sais pas si Manuel Neuer est revenu complètement de sa blessure qu'il a quand même tenue out pendant 8 mois. Je vois Kevin Trapp en gardien numéro 2 de l'équipe d'Allemagne. Mais là, j'ai peur que, je ne sais plus qui a dit, à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent.
Gary Lineker.
Exact. Voilà, Gary Lineker en Angleterre qui a dit ça. Mais là, j'en suis beaucoup moins sûr et j'ai le sentiment que c'est un peu partagé par les médias allemands d'après ce que j'ai cru lire à droite et à gauche depuis hier.
La réaction de Poutine
lorsque la Russie sera éliminée.
C'est plutôt quelqu'un qui vole au secours de la victoire que plutôt que trouve des mots de consolation en cas de défaite. Donc je le vois en fait rien dire du tout et je pense que c'est ce qui se passera.
Alors, est-ce qu'il a bien vu ?
Merci à Nelson Montfort, le meilleur ami des imitateurs.
Pour Lukaku.
Lukaku.
C'est un belge, hein, Nelson. Hein.
Qu'est-ce qu'on voit comme prono pour Espagne-Maroc, nous? Qui veut commencer?
Mathieu.
Espagne-Maroc, moi je pense que ça peut faire un 3-1 pour l'Espagne.
Ouais. Ouh, dis donc. Je dirais 2-1 pour l'Espagne.
Moi 2-0. Propre, très bien. Sans bavure.
C'est noté. À noter que demain, c'est au tour de Stéphane Le Foll.
Et oui.
De nous donner son prono, Stéphane Le Foll,
qui est ancien ministre de l'Agriculture, ancien porte-parole du gouvernement.
Tout à fait.
Et ami de François Hollande.
Oui. Et maintenant.
Maire du Mans.
Ah bon?
Il a été élu maire du Mans là il y a 2 semaines.
Putain, il a fait une soirée.
Football Recall.
Merci Mathieu Rollinger.
Merci à vous.
C'était un moment appréciable.
Oui, bah pour moi
quand
aussi.
Quand vous n'avez pas les images, c'est que Mathieu Rollinger est très beau.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on va le réinviter pour ça.
Oui, bah c'est
parce que pour nous, ça nous fait du bien.
Putaclic, hein, vraiment.
On a passé une journée de foot un peu difficile. On est content d'avoir Mathieu avec nous en studio.
Mais moi, je passe ma journée à regarder Mathieu, il faut savoir. Hein.
Ouais, t'as des petites photos sur ton téléphone que tu fais défiler.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
En tout cas, merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet. On sera là tous les jours de match. Vous nous retrouvez sur les sites de SoFoot, de Deezer, dans votre appli de podcast préféré. Et rendez-vous demain, grosse page France-Danemark.
Oui.
On parlera de la France et comme d'hab, on parlera du Danemark. Parce qu'on parle toujours aussi de nos adversaires parce que nous sommes fair play.
Exactement. À demain matin, n'oubliez pas, Football Recall, c'est quand même un peu plus marrant que cette meuf des Robins des Bois. Comment elle s'appelle? Ah oui, Élise Larnicole.
Le podcast foot by SoFoot. Et maintenant, vodka.
Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe. 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.
Abonnez-vous à Deezer Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. Deezer, le streaming made in France.